Mais le message, mais il est donné. Est-ce que vous l'avez reçu dans votre cœur, ce message, ce matin, pendant cette louange? Si je vous dis le titre de mon message, vous allez croire au Saint-Esprit. La tendresse de Dieu qui vient au secours de mes égarements. Marie, nous avons été conduits. Je vous regarde tous souriants et je lis dans vos regards cette soif de la parole. J'entends même gargouiller vos estomacs, pas parce qu'on s'approche de midi, mais parce que vous avez faim de la parole de Dieu. Je le sais. Le Seigneur l'a mis dans mon cœur et ça tombe bien parce qu'il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Prions. Seigneur, on est là devant toi tous, bien petits, c'est vrai, devant ta majesté, bien petits devant nos besoins, bien petits, Seigneur, devant ce message à donner de ta part. Mais nous avons tes promesses, nous avons, Seigneur, ton regard sur nous. Toute cette louange, nous l'a rappelée, nous l'a prouvée, et nous te l'avons adressée sincèrement, Seigneur. Alors, Seigneur, assiste-nous pour donner, pour recevoir, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Tu as bien fait. Quelquefois, la bouche est sèche parce qu'on a tellement de choses à dire que c'est déjà sec. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de réaliser combien le cœur humain est versatile? Il est changeant, il est fluctuant, il est inconstant et quelquefois lunatique. C'est vrai chez moi, c'est vrai chez vous, c'est vrai chez tous les êtres humains. Il n'y en a qu'un qui a été parfait, vous le savez. Et c'est vrai pour les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible. Prenez par exemple Élie. Vous connaissez le prophète Élie. Voyez-le sur le mont Carmel. Il est là, puissant. Sa parole est puissante. Ses actes sont puissants. Il sait que Dieu est avec lui. Il fait son sacrifice, il met son autel. Il prend même de l'eau. Pour bien montrer que tout est trempe, tout est mouillé. Il attend le feu de Dieu. Mais il n'y aura pas d'action humaine. Ce n'est pas possible. Tout est mouillé. Il y a même un fossé tout autour, rempli d'eau. C'est un homme puissant. Et puis le feu vient de Dieu. Les 450 prophètes de Baal sont éliminés et le cœur du peuple retourne à Dieu. Prenez-le 48 heures après, peut-être même pas 24 heures après. Où il est ce prophète? Il est dans le désert. Il est couché sous un genêt. Et il dit, je veux mourir. Ce n'est pas des êtres humains vulnérables, ça. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme lui. Mais Dieu ne le laisse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son ange, ou peut-être il vient même lui-même avec des gâteaux sur une pierre chaude. Et il dit, mon serviteur, le chemin est encore long pour toi. Mange, fortifie-toi et va. Vous connaissez la suite. Mais si vous prenez dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Prenez Pierre. Combien il est vulnérable lui aussi. Combien il est changeant, fluctuant. Quand Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Il lève la main. Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. Jésus se tourne vers lui et dit, ça c'est mon Père qui te l'a soufflé. Quelques heures plus tard, en tout cas c'est dans le même chapitre, Jésus dit, je vais aller à la croix, je vais souffrir, je vais mourir, et le troisième jour je ressusciterai. Pierre, le même, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Jésus se tourne vers lui. Pour le coup, Pierre, c'est Satan qui t'a soufflé cela. Ainsi nous sommes tous. Et cette fragilité, il faut l'assumer. Le Seigneur nous dit dans le psaume 103, verset 14, « Je sais de quoi tu es formé. Je sais de quoi tu es formé. Je me souviens que tu es poussière. » Alors pour le coup, les humanistes, ils ravalent leur salive. Mais nous, chrétiens, nous nous activons dans la dépendance du Seigneur. Nous sommes poussière, nous dépendons de lui, nous sommes petits. Nous sommes poussière. Eh bien, je vais vous aider, dit le Seigneur. Alors, on va lire quelques versets dans le Cantique des Cantiques. Pas souvent qu'on parle du Cantique des Cantiques. Et là, nous avons disons quelques mots sur le Cantique des Cantiques. Parce qu'il a fait couler bien de la salive et bien de l'encre, ce Cantique des Cantiques. Et depuis la nuit des temps. Peut-être le premier parmi nous va dire, moi je vaux ma Bible, le Cantique des Cantiques, ouais, c'est... mais je ne comprends pas trop ce qu'il y a pour ma vie. Alors je n'ouvre pas trop ce livre. Le deuxième dira, moi je trouve super ce couple, il est romantique, il s'aime, le bien-aimé aime la bien-aimée, mais j'ai du mal à l'appliquer parce que, voilà. Le troisième qui a entendu les deux premiers va dire, mais vous dites romantique, mais c'est un euphémisme. C'est pas romantique, c'est carrément érotique. Lisez entre les lignes, vous verrez. Vous verrez ce qu'il dit dans ce livre. Mais qu'est-ce que ça fait dans notre très sainte Bible ? On pourrait continuer les arguments contre le Cantique des Cantiques. Le nom de Dieu n'est même pas nommé. Comme le livre d'Esther. Il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Et pire, ni Jésus, ni les apôtres n'ont repris un verset du Cantique des Cantiques. Alors là, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons nous tourner, comme un verset le dit dans le Nouveau Testament, qui dit que les oracles de Dieu ont été donnés à Israël, au peuple d'Israël. Alors que disent les Juifs ? Que disent les rabbins ? Les rabbins ils disent « Cantique des Cantiques, sacré ». Sacré, et pourquoi donc sacré ? Ils disent sacré au point que, à la fête de Pessah, la fête de Pâques, on lit le Cantique des Cantiques. On le lit dans les synagogues, encore de nos jours. De tout temps, ça s'est fait. Partiellement ou même quelquefois totalement. Mais quel rapport entre le Cantique des Cantiques et la fête de Pessah ? Eh bien, les rabbins, ils disent, mais c'est tout simple. Ouvrez vos yeux. Le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques, c'est Dieu. Et la bien-aimée, c'est nous, c'est Israël, c'est son peuple. Et quand il est venu en Égypte nous racheter, nous se faire sortir, c'est qu'il nous aimait, nous sommes son peuple, nous sommes sa bien-aimée. Vous voyez, les rabbins, ils sont plus spirituels quelquefois que ce que nous croyons. Si on va du côté des pères de l'Église, pères de l'Église, ils s'alignent sur la même pensée. J'ai vérifié. Ils disent, mais c'est vrai, Dieu aime Israël, et le Cantique des Cantiques est d'abord pour Israël, le bien-aimé, la bien-aimée. Mais si Dieu aime Israël à ce point, n'aimera-t-il pas l'épouse de Jésus-Christ d'un amour encore plus grand puisqu'il a donné son Fils ? Donc nous prenons le Cantique des Cantiques, c'est pour nous, chrétiens. Et si on va un peu plus loin, ce qu'ils font, eh bien ils disent, C'est valable pour l'Église en général, mais la bien-aimée, c'est chaque croyant. C'est chaque croyant. C'est chaque croyant. Alors, pour le coup, on ne va pas parler de genre, mais exceptionnellement, hein, là, quand le Seigneur dit à un frère, tu es ma bien-aimée, tu es ma douce colombe, vous pouvez prendre. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Et vous allez voir qu'en lisant ce texte, vous allez être émerveillé d'abord de ce qui est écrit, mais de voir combien il s'inscrit dans le culte que nous vivons ce matin. Chapitre 2 du Cantique des Cantiques, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, super, ou au fan des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits. Et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, tourne-toi, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Amen. Chapitre 5. 5, verset 2. Merci Jean-Hugues. Non, merci Sylvie. Verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé les voiles, mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes ? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, que tu nous conjures ainsi ? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Parole de Dieu. Bon, je vais essayer de vous faire réfléchir. Alors, dans ce premier passage que nous avons vu, partons dans cette idée que je crois juste, que le bien-aimé c'est Dieu, c'est Jésus. Où se situe-t-il ? Alors, ce langage allégorique, eh ben, il faut s'y habituer. Hein. Sinon, quand il est cantique, ça reste fermé. Donc, il faut accepter que le bien-aimé il fasse des bonds sur les montagnes et qu'il saute sur les collines. Ça, c'est, et d'autres choses encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Spirituellement, ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que le Seigneur, il est dans une grande liberté. Une grande liberté. Et il nous invite à cette liberté. Il veut que nous soyons dans cette. Il veut que nous fassions des bons avec lui, si je peux m'exprimer ainsi. Il veut que nous soyons à l'aise. Il faut que nous soyons libres. Et la bien-aimée, où elle est ? Elle est derrière son mur. Comprenez où je veux en venir ? Elle est derrière le mur. Le Seigneur ne lui dit pas « Je vais venir chez toi ». Il le dit la deuxième fois parce qu'il change. Parce que voilà, le Seigneur est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, il lui dit « Sors, lève-toi, viens. Tu es derrière un mur. Viens dans ma liberté. » Ici, parmi nous, il y a des personnes qui soignent les gens. Il y a des médecins, il y a des infirmières, des infirmiers, et il y a aussi des gens qui soignent l'âme, des psychothérapeutes, j'en connais, vous en connaissez, et ils seraient bien plus capables que moi de vous expliquer les mécanismes des murs humains, ces murs que nous mettons pour nous protéger lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous sommes agressés. C'est un réflexe humain. On cherche à se protéger. Mais quelle est notre vraie protection ? Ici, tout le monde peut lever la main et dire « C'est le Seigneur !» Mais voilà, nous sommes ce que nous sommes et nous nous protégeons derrière ce derrière quoi nous pouvons nous protéger. Et ces murs sont bien embêtants. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit « Lève-toi, viens, rejoins-moi dans ma liberté. » Tu es dans une période d'hiver. Depuis que le péché est entré dans ce monde, l'hiver est là. Je ne parle pas de l'hiver saison naturelle, mais l'hiver dans nos âmes. On peut être en plein mois de juillet ou d'août, sous la canicule, et être en hiver dans notre âme. Seul, perdu, déboussolé, à qui ce n'est pas arrivé, frères et sœurs. Donc, le Seigneur le sait. Et regardez sa douceur. Regardez comment il s'y prend. Il commence par, bien sûr, parler et dire des mots d'amour. Ce matin, il nous en a dit quelques-uns pendant ce culte. Mais il ne cesse de le faire. Tous les chants qui ont été chantés étaient dans ce sens. Le Seigneur ne cesse, malgré sa majesté, malgré tout ce qu'il est, de venir vers nous. Il ne regarde même pas notre péché tellement qu'il nous aime. Bien sûr qu'il le regarde, parce qu'il sait que ça nous fait souffrir, que ça nous coupe de lui, mais ça ne l'empêche pas de s'approcher de nous. Il nous cherche et il nous désire. Et il nous dit ces mots d'amour. Il va user d'arguments merveilleux pour nous inviter et pour nous inciter à le rejoindre. Alors, il va nous inviter à nous lever. Le verbe « se lever » dans l'Écriture, c'est très parlant. C'est changer de position, évidemment, physiquement. Mais c'est changer d'attitude, c'est avoir le désir de, que ça change. Et c'est valable spirituellement parlant pour chacun de nous. Regardez le fils prodigue. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Là, il est dans une situation, il a faim, il est sale, mais je me lèverai. Abraham aussi, quand il a vécu cette souffrance terrible avec le départ de son épouse Sarah, à un moment donné, il est dit, il s'est levé. Et quelquefois, on a besoin de se lever. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel repose sur toi. Lève-toi. Donc, se lever, quelquefois, on a besoin de se lever et d'aller vers le Seigneur. Lève-toi. Mais elle ne se lève pas pour l'instant. Quand elle se lève, enfin, après tous ces mots d'amour, il n'est plus là. Qu'est-ce que c'est cette pédagogie, Seigneur ? Je te cherche, je t'appelle, je crie vers toi, et quand enfin je me décide à me lever, plus personne derrière la porte. Pourquoi tu fais ça, Seigneur ? C'est bien des questions que nous pouvons nous poser. Mais le Seigneur est sage. Il est sage. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parce que, ça a été dit ce matin par deux ou trois paroles, il vise plus loin sur des choses que nous n'avons pas encore compris. Il vise une restauration parfaite. Le Seigneur ne se contente pas d'un petit emplâtre. Il veut la profondeur dans nos cœurs. C'est pour ça que quelquefois, il ne dit rien pour que nous le cherchions encore plus fort. Et la pédagogie continue. Elle va voir, elle sort. Bon, pour le coup, elle s'est levée. Pour le coup, elle est venue, puisque le Seigneur lui a dit, lève-toi. Elle n'est pas découragée. Remarquez qu'elle aurait pu revenir chez elle, derrière son mur. Elle ne l'a pas fait. C'est tout à son honneur. Elle le cherche. Peut-être même qu'elle prend sa belle plume et qu'elle écrit ce mot, peut-être. Elle rencontre les gardes. Alors les gardes, qu'est-ce que c'est ? C'est la sécurité. Trouver de la tendresse et de la sécurité et de la tendresse et la compassion dans les gens de sécurité, c'est pas gagné. Du coup, elle n'obtient rien. Elle aurait pu repartir, re-rentrer chez elle derrière son mur. Elle persévère. Vous voyez le message que le Seigneur nous fait passer à tous ce matin, de persévérer pour le toucher. Et juste après, il est dit, il faut que je vous le relise ça. À peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Évidemment, il n'a qu'une envie, le Seigneur, c'est de se laisser trouver. Regardez, encore un exemple dans l'Ancien Testament, Joseph et ses frères. On pourrait dire, il est dur, le Joseph, quand même. Vous avez vu la discipline à laquelle il soumet ses frères pour arriver à gagner leur cœur ? La première fois qu'on lit ça, on se dit, mais vite, vite, révèle-toi à eux, montre-leur que tu es Joseph, allez, que c'est fini, qu'on passe l'éponge. Joseph, non, conduit par le Saint-Esprit, fais pas ça. Il dit, allez chercher mon jeune frère qui est avec mon père, ramenez-le, et en attendant, je garde un de vos frères en prison, comme discipline. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait que tout ce qui était caché dans le cœur soit révélé. Il fallait que les frères en chemin, ils disaient, mais ouais, mais c'est parce qu'on a livré notre frère qu'il nous arrive ça. Et puis ça travaille la conscience. Ça travaille. Le Seigneur fait pareil avec moi, avec vous, avec son. Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous travaille. Et sa pédagogie est parfaite. Si j'étais un prédicateur moderne, vous savez ce que je ferais ? Je dirais, tourne-toi vers ton voisin et dis à ton voisin, la pédagogie du Seigneur est parfaite. Je ne le fais pas parce que parce que c'est pas moi, voilà. Bon. La pédagogie du Seigneur est parfaite. Je l'ai trouvé et je ne l'ai pas lâché. C'était ça que le Seigneur voulait. C'était ça que le Seigneur voulait. Plus de murs. Voilà. Deuxième passage. Là, c'est différent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne veut plus qu'elle vienne, c'est lui qui veut rentrer. Vous savez, le Seigneur, hein, fait ce qu'il veut. Quelquefois, il met le doigt dans les oreilles, quelquefois, il met de la salive sur les paupières, quelquefois, il ne fait rien avec ses doigts. Le Seigneur connaît la façon de faire avec chacun de nous. Et là, il veut rentrer. Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas avec cette bien-aimée ? Écoute, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? C'est nous, ça. Enfin, moi, je me reconnais. Écoute, Seigneur, j'ai prévu ça, je suis bien. Bon. Aucun reproche de la part du Seigneur. Mais c'est ça que nous devons bien entendre ce matin. Il ne fait des reproches à aucun de nous. Il réfléchit. Quel argument encore il va utiliser pour nous séduire, dans le bon sens du terme, pour nous parler à notre cœur ? L'amour est inventif, c'est vrai. Mais du côté du Seigneur, c'est prouvé. Il est inventif. Alors il passe sa main par le trou. Alors peut-être que les portes autrefois, chez les Orientaux, il fallait passer sa main par l'intérieur. Je ne sais pas, peu importe. Et la bien-aimée a laissé un peu de temps passer. Les paroles du Seigneur, ses mots d'amour ont travaillé. Les paroles du bien-aimé, mais moi je transpose sur le Seigneur. Vous comprenez comment je fonctionne là avec ce passage. L'herméneutique, c'est une science qui vise à interpréter les Écritures. C'est facile dans le Nouveau Testament, l'herméneutique. Hein, quand Paul dit « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi », Fils de Dieu, on sait ce que c'est. M'a aimé, on sait ce que c'est. S'est livré, on sait ce que c'est. Le verset, clair comme de l'eau de roche. Dans le Cantique des Cantiques, on a un peu plus de liberté. On a un peu plus de liberté parce que c'est très métaphorique. Et il y a des allégories qu'il faut... Pour certaines, on a vraiment la liberté, les uns et les autres, de prendre dire, ce qui nous arrange. D'avoir des différences d'interprétation dans le Cantique des Cantiques. C'est mon point de vue. Et où j'en étais ? Mais j'en étais que elle se lève et elle constate que sur la poignée du verrou, il y a quelque chose de liquide. Et ce liquide, elle sait ce que c'est, à l'odeur, c'est de la myrrhe. Et ça, c'est un message que les Orientaux comprennent beaucoup mieux que nous, parce que la myrrhe, c'est quelque chose qui est connu. C'est une résine qui est obtenue par... on fait une blessure à un arbrisseau, on met un récipient, et cette résine coule dans le récipient pour produire des parfums, pour produire des cosmétiques, etc. Et elle le sait ce que c'est, puisque dans le chapitre premier, je crois que la bien-aimée dit « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins ». Vous voyez, il y a la notion d'amour, la notion de cette myrrhe. Et la myrrhe, si vous prenez le dictionnaire des symboles, il vous dira que la myrrhe, c'est le symbole de la souffrance. Parce que justement, ça coule comme une larme dans le récipient. Et puis, ça fait suite à une blessure. Et ça la touche. Si on veut retransposer pour nous, c'est facile. Qu'est-ce que c'est qui nous a touchés ce matin dans la louange ? Qu'est-ce que c'est qui nous a touchés ? C'est tous ces chants qui parlaient de l'amour du Seigneur pour nous, qui a donné sa vie, sa souffrance, son sacrifice. Est-ce que nous ne sommes pas touchés quand nous chantons des chants comme ça, quand nous prions, quand nous sommes ensemble et que nous avons la même connexion avec le Seigneur sur ses souffrances et son sacrifice pour nous ? L'Esprit de Dieu a voulu que ce soit caché de manière implicite, dans le Cantique des Cantiques, pour que nous arrivions à découvrir ces choses. Oui, la myrrhe, c'est la souffrance. Et là, son cœur, il déborde. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort, elle le cherche. Va-t-elle le trouver ? De nouveau, elle rencontre les gardes. Mais alors, ça se passe moins bien. Ça se passe moins bien parce que les gardes, là, ils la touchent. Là, ça fait mal. Ils la battent. Et quelque part, il a je ne dis pas qu'il la déshonore, mais il lui enlève son voile. Ça a une signification dans ces pays orientaux. Va-t-elle se décourager ? Elle le cherche, elle ne le trouve pas encore. Alors qu'est-ce qu'il est dit ? Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Elle s'adresse à d'autres personnes. C'est guère mieux. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Et ça, c'est le résultat escompté par le Seigneur de toute cette discipline, de tout ce qui s'est passé avant, être malade d'amour. Est-ce que je suis malade d'amour ? Est-ce que nous sommes malades d'amour pour le Seigneur ? Dans tout ce qui nous arrive, vous y penserez cette semaine, dans tout ce qui nous arrive, le but que le Seigneur poursuit dans chacune de nos vies, c'est de nous rendre malades d'amour de lui. Alors quelqu'un l'a dit dans un mot tout à l'heure, ça peut faire mal. Mais ce n'est pas pour faire mal. Le but, ce n'est pas la souffrance. Le but, c'est la maladie d'amour. On a un Seigneur, il faut bien le comprendre. Sinon, on se trompe et on a peur de lui. Jamais le Seigneur ne voudra nous faire du mal. Jamais. Pour nous faire du mal. Mais son cœur brûle de ce que nous brûlions. Qu'est-ce qu'ils disent les pèlerins d'Emmaüs ? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par les Écritures ? Ils étaient découragés, ils n'en pouvaient plus, mais quand le Seigneur se montre à eux, ils repartent, ils refont les 11 kilomètres qu'ils avaient à faire pour aller voir leur frère. C'est ça brûler d'amour, c'est ça être malade d'amour. Et rappelons-nous que quand nous comprenons pas, quand nous cherchons le Seigneur, quand nous ne le trouvons pas, quand c'est difficile, derrière, le Seigneur cherche à nous rendre malades d'amour. Alors, ça continue. Hein. Les filles de Jérusalem ils disent, enfin, qu'est-ce qu'il a ton bien-aimé de plus qu'un autre ? Ça vous fait penser à quoi ? Un de perdu, 10 de retrouvé ? Voilà. Voilà comment on peut bien encourager, quoi. Qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé, de plus qu'un autre, que tu nous conjures ainsi ? Et là, le résultat il est atteint à 100% du Seigneur. Elle va dire. Je crois que c'est Francis tout à l'heure qui disait, tu dois dire au Seigneur, tu dois dire à Satan, tu dois dire aux autres, et tu dois dire à toi-même, et pour ajouter, tu dois dire aux autres. Elle va dire, mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. On pourrait développer ça, hein, la couleur blanche, couleur vermeille, couleur de la pureté, couleur du sang. On ne développe pas ça aujourd'hui. Mais il se distingue entre 10 000. Le résultat est atteint. Le Seigneur est au-dessus de tout, au-dessus de tous. Et mes idoles, elles tombent. C'est ça que le Seigneur attend. Tout ce qui prend sa place tombe. Et ce que je voudrais ce matin, et je termine là-dessus, c'est vous montrer sa pédagogie. C'est vous montrer qu'il ne fait pas de reproches. Il parle avec son cœur. Il nous attire avec tous les moyens qui sont entre ses mains, mais essentiellement à la croix. Il nous parle, il nous attire. Et petit à petit, bien, nos murs s'effacent et tous nos obstacles tombent. Est-ce que nous voudrions un autre Seigneur que celui-là ? Non. Alors je vais prier. Oh Seigneur, Pierre l'a dit, mais nous on le dit aujourd'hui tous ensemble. À qui d'autre irions-nous, Seigneur ? Tu as vraiment les paroles qui nous donnent la vie. Et tu nous fais vivre ce matin. Et tu nous relèves ce matin. Et tu nous restaures ce matin. Et tu nous guéris, Seigneur. Et tu nous entraînes pour que nous puissions courir après toi. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta pédagogie. Merci pour ton cœur. Merci parce que tu seras toujours pour nous et que rien ne nous séparera de ton amour. Nous te louons, Seigneur, tous ensemble. Et nous levons ensemble d'un seul cœur et nous te disons gloire à toi, Seigneur. Tu es notre bien-aimé et nous sommes ta bien-aimée. Amen.